c'est reparti pour la seconde partie de l'émission où on commentait en off les tatouages de notre invité qui nous expliquait l'histoire de Bird. Tu veux la raconter à tout le monde ou on va peut-être laisser le soin de nous présenter ce petit merle qui s'est mangé par un chat sur un endroit.
Oui, mon surnom, donc c'est Birdie. Et en fait, c'est issu d'une histoire où un jour, mon chat a attrapé donc un merle. Il a voulu jouer avec, il l'a un peu abîmé. Et j'ai voulu sauver ce merle. Et en le sauvant, en fait, j'ai mis dans une petite boîte. Et puis, j'ai voulu le baptiser, donc je l'ai appelé Birdie. Et donc, on s'est un peu moqué de moi en l'appelant ce petit oiseau Birdie. Et du coup, en fait, c'est resté. Et du coup, j'ai accepté d'avoir ce petit nom. Et maintenant, ça me suit depuis au moins 20 ans.
Un passé bien présent, puisqu'il est présent sur ton avant-bras.
Exactement.
Alors justement, on va laisser le passé un peu là où il est pour revenir au présent.
Ouais.
Peut-être faire un petit saut entre deux, une petite passerelle entre ce que tu évoquais dans ces groupes, ces concours, pour mieux les rattacher au présent. Est-ce que tu peux nous évoquer cette période des concours et la relier à une actualité plus présente?
Bonne question.
Vous avez 3 heures.
Non, j'ai un concours qui m'a bien marqué. C'était le. Donc, avec Big Dist, justement. Un jour, je vois une annonce avec un concours à Paris qui s'appelle le Festival Rock du Gibus. Et dans ce concours-là, en fait, la finale, elle se déroulait à l'Olympia. Donc, je vois ça, je suis bon, ben. Je vais nous inscrire et puis on sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Donc je nous inscris et puis je dirais en groupe. Et puis 2 semaines après, je reçois un coup de fil. Oui, bonjour, je vous appelle, voilà, c'est la personne du festival Rock du Gibus. Donc c'est pour vous dire que votre groupe a été sélectionné pour participer au concours. Donc il y avait 700 candidatures quand même. Et je fais bon, ok, bon, super, je vais peut-être prévenir les autres. Et donc, j'ai prévenu les autres. Donc, ils ont joué le jeu. On est monté à Paris, donc faire une première sélection. On est passé, donc sur 10 groupes. Et la semaine d'après, on devait faire une deuxième sélection. Et là, il y avait les sélections pour jouer la finale à l'Olympia. Et du coup, on est passé aussi. Et voilà, du coup, on a eu la chance de jouer, de faire la première partie de Pete Doherty à l'hôpital, au départ, à l'hôpital, à l'Olympia.
C'est Pete qui a fini l'hôpital.
Ouais.
La première partie.
Je pense à l'hôpital, non, parce qu'il y a, en fait, au départ, on devait faire la première partie de Nina Hagen, et elle a annulé au dernier moment. Elle nous a dit qu'elle s'était faite morte par son chat, enfin bref. Bonne excuse. Et voilà, donc du coup, ça a été Pete Doherty et on a passé vraiment un très 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 bon moment sur la scène de l'Olympia. Donc ça, c'était vraiment bien. Alors bon, on est arrivé second, hein, malheureusement, parce que le jury qui nous avait fait arriver jusque-là n'était pas présent ce soir-là. À mon avis, il y a une petite discorde dans leur gars. Donc là, il n'y avait que des élus locaux, tout ça. Donc ils ont préféré prendre un petit groupe parisien, je pense. Et voilà, suite à ça, donc moi, j'étais un petit peu déçu. Je nous ai inscrit à un autre concours. Donc cette fois-ci au Brin de Zinc à Chambéry, et cette fois-ci on a gagné. Donc ça fait du bien au moral. Voilà, sinon j'avais fait aussi, mais quand j'étais bien plus jeune, au tout début, là, on avait fait les tremplins de l'Isère. Et voilà, moi j'aime bien les concours, ça permet de nous situer toujours un petit peu, puis ça met une bonne énergie et ça botte un petit peu les fesses pour sortir quelque chose de bien et travailler.
Alors cette expérience justement de la scène, est-ce qu'elle se traduit aussi par du track, une appréhension particulière?
Ah
ou
oui,
pas
toujours. Toujours le track, ouais. Toujours. Mais après, une fois que les premières notes elles sont lancées, ça n'existe plus, quoi. Je suis dans ma bulle et il n'y a plus personne. Mais oui, avant de rentrer sur scène, toujours un peu de track, un peu de bière. Et puis, généralement ça passe. Ça passe. Mais il le faut, hein. Je pense que c'est nécessaire d'avoir le track, parce que si on part trop confiant, je pense qu'on fait pas quelque chose de bien.
Puis c'est peut-être aussi l'énergie qui va amener de l'émotion et que ça soit pas que de la technique, du calcul et des automatismes.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Exactement.
Alors si on devait poursuivre le fil de ton histoire avec une relation plus ancrée au pays voivronnais, comment on bascule de l'Olympia à Moiran, à une arrivée aussi plus proche de Charavine au niveau de Voiron.
Et ben, suite à ça, disons que c'est en donnant des cours de guitare en fait après. Voilà. Je travaillais dans une mairie, la mairie de Moiran. Et à un moment, j'ai eu des petits soucis de santé. Il a fallu que je me réoriente. Et du coup, pour moi, le chemin de tout tracé, en fait, c'était la guitare. Donc, j'ai commencé à donner un petit peu des cours du soir en me déplaçant chez les personnes à domicile. Et puis, au fur et à mesure du temps, ça a pris de plus en plus d'ampleur. Et ensuite, j'ai donné des cours chez moi. Donc, j'habitais à Voiron. Donc, je faisais venir les personnes chez moi. J'avais une pièce de libre. Et puis ma fille est arrivée, donc il a fallu que
libérer
une chambre. Et là j'ai eu de la chance parce que c'est là que j'ai à ce moment-là que j'ai rencontré donc Cyril qui a le magasin Rock Asylum. Et je lui ai demandé s'il pouvait m'accueillir dans ses locaux, s'il avait une petite pièce que je me mette afin que je puisse mettre dedans. Et puis du coup ça a été ok et là ça a matché tout de suite. Et là les cours ont encore plus explosé puisque j'ai eu une meilleure visibilité et lui, il a eu toujours du passage puisque mes élèves venaient au magasin. Donc ça, on a eu un bon, comment dirais-je, c'était un bon partenariat quoi, je veux dire.
Alors dans la logique de partenariat que tu évoques, on pourrait même parler de transmission, de relation prof-élève, qu'est-ce qui se joue là? Est-ce que c'est une transmission d'un répertoire, d'un sens du son, de la technique? Qu'est-ce qui fait que tu perçois cet engouement qui se développe au fur et à mesure de l'échange que tu as avec tes élèves?
En fait, j'ai vu que mes cours, en fait, je les donne d'une façon sur laquelle j'aurais souhaité moi qu'on me donne des cours déjà. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu donc une assez mauvaise expérience avec les cours, par exemple au conservatoire ou voilà guitare classique. Et je trouvais ça vraiment trop conventionnel et il fallait
valider le solfège, le rythme.
Ouais, il y avait ça, puis valider des acquis, puis on pouvait pas faire ce qu'on aime, il fallait commencer sur telle guitare, apprendre telle technique. Et ben tout ça en fait, je me suis dit non, moi ça me plaît pas. Et du coup, lorsque les élèves arrivent, je leur demande déjà qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils souhaitent jouer. Et à partir de ce moment-là, c'est là qu'on commence en fait, à avoir un échange et commencer les techniques qui vont leur servir. Voilà. Bosser vraiment une technique au service de la nécessité. Et au fur et à mesure du temps, en fait, tous les acquis dont on a besoin, on les a, mais on les a au moment où on en a besoin. Voilà. Je me suis un peu répété là. et voilà, donc du coup, ça se passe super bien. Et je les vois bien évoluer. Ils ont tous des demandes différentes. Ils ont tous une progression différente. Et c'est ça qui est génial. Puis il y a aussi le post-Covid où les gens, ils ont tous commencé à apprendre la guitare un petit peu sur YouTube. Donc là, j'en récupère pas mal et, qui ont la nécessité d'avoir quelqu'un qui les guide. Les choses qu'on ne dit pas forcément sur Internet. Et je me retrouve à... C'est plus des fois du coaching ou des choses comme ça, déverrouiller juste une petite technique. Et voilà, il y a le côté humain qui rentre derrière. Donc ça se passe généralement plutôt bien.
Parce que la guitare, ça peut se faire aussi à trois doigts, on pense à Django Reinhardt.
Django Reinhardt qui faisait ça, ouais, mais il n'avait pas le choix.
Ils avaient brûlé les deux autres.
Ouais, c'est ça.
Alors, précisément, dans cette appréhension des doigts, j'imagine que quand on démarre la guitare, on peut avoir l'angoisse de la corne qui pousse, des ongles qui jouent un rôle qu'on ne suspecte pas. Ouais. Quels sont comme ça un peu les freins que tu débloques au fur et à mesure?
Alors ceux-là, ils se font naturellement, parce que la corne au bout des doigts, on n'a pas le choix. Donc au départ, ça fait très très mal, surtout si on démarre sur une guitare folk. Qui a des cordes assez dures et en acier. Après les ongles, au moins la main du manche, il faut les enlever. Sinon, on ne peut pas jouer. Donc, j'ai certaines personnes, notamment certaines filles qui tiennent à leurs ongles. soit elles les enlèvent, soit elles arrêtent la guitare ou elles se mettent au piano. Après, généralement, ça se fait naturellement.
les attentes, qu'est-ce qui pousse un petit peu à aller au-delà des acquis? Parce qu'on peut-être, je ne sais pas, que je me plante complètement, mais imaginez que va y avoir des caps à franchir aussi au niveau technique et des choses où on a envie d'aller lorsqu'on est praticien, jeune praticien, puis qu'on se sent auto-bloqué, on s'auto-sabote en disant bah, ça, je ne pourrais pas, c'est trop dur, ça va trop vite.
Alors, il y a deux choses. Là, c'est. Alors, on a tous hein, ce genre de questions qui arrive. C'est vrai qu'il faut travailler une technique déjà bah, dans l'ordre, commencer vraiment par la bonne méthode et pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais il y a aussi une question de physique. Même si on bosse toute notre vie sur la vélocité, on a en fait physiquement, si on peut pas aller plus vite, il y a un moment où on pourra pas aller plus vite. Il y a beaucoup de virtuoses qui font 10 000 notes à la seconde. C'est possible pour eux. On pourra s'en rapprocher, mais il est possible que ce ne soit pas possible de les atteindre également. Là, il y a une question de physique. C'est comme quand on va faire un sprint ou n'importe. Il y a un moment, si on a les jambes trop courtes, on va pas talonner Usain Bolt ou n'importe, mais on fera de notre mieux. Quoi. Et c'est pas pour ça qu'on sera mauvais, mais on sera pas le champion olympique. Quoi.
Et on décroche surtout pas les freins du vélo. Je pense que c'est la Django Reinhardt tout à l'heure. Je pense aussi de Tony Gatliffe Swing, où on voit ces cordes de guitare qui sont retirées parce qu'elles ont fini par lâcher et qui sont remplacées par des câbles de frein. Et ouais. Ça joue toujours aussi vite, hein, ça n'empêche pas.
Il y en a qui font le contraire, ouais, qui remplacent les câbles de frein par les cordes de guitare.
Ok, tu roules en corde.
C'est ça.
Si on peut toujours là aussi dérouler le fil davantage dans une articulation entre la passion et la transmission. C'est-à-dire comment on va pouvoir passer d'une logique où on est en cours individuel avec des gens qui ont envie de découvrir des choses qu'ils connaissent déjà, à transmettre aussi son goût pour la musique et ce goût du collectif que tu nous as présenté tout à l'heure, tout au long de la première partie.
Eh bien, ça oui, je pousse toujours les personnes à essayer de jouer avec d'autres personnes. Voilà, ça je trouve ça vraiment très très important le partage. Et je trouve ça vraiment dommage d'avoir des élèves qui ne veulent jouer que pour eux-mêmes dans leur chambre. Lorsqu'on a été, on a eu deux magasins avec Cyril, à deux endroits différents. Le premier magasin, il était assez grand et on organisait deux concerts par an avec les élèves. Et à chaque fois, donc ils étaient au départ, ils avaient peur, ils étaient réticents. Non, je peux pas jouer, je suis pas assez bon, tout ça. Et en fait, je les poussais un petit peu. Et en fait, à l'issue du concert, ils me disaient, mais quand est-ce qu'on remet ça? C'est génial, je veux rejouer en groupe. Voilà, donc la transmission finalement elle est simple. Il suffit des fois un peu de les pousser et ils s'imaginent pas qu'en fait c'est vraiment mieux de partager la musique plutôt que de jouer tout seul.
Je fais une petite fixette sur Django, je suis désolé, mais à l'occasion des 100 ans de sa naissance, il y avait eu quelques années un projet qui s'appelle Django 100, avec 100 guitaristes qui jouent et qui sont une belle illustration de ce qu'on est en train de se raconter. Comment arriver à harmoniser et à rendre quelque chose d'harmonieux avec 100 guitaristes, oui, c'est possible.
Ah ouais, c'est énorme. Ouais.
Alors,
il y a le Rocket 1000. Qui est...
Ouais, ça vas-y, parle-nous-en.
Non, mais enfin, je veux dire simplement que là, on se retrouve avec 1000 musiciens qui jouent ensemble. Voilà, c'était juste pour faire la
parenthèse.
La parenthèse, ouais.
C'est un éclat noir, ça tombe bien, ça va être le second extrait qu'on va écouter. Je suis toujours là, c'est transition ou pas. Aujourd'hui, je pédale un petit peu dans la spoon, mais ça passe son temps. C'est avec Blackburst et je le déteste ce son. Il s'appelle I Hate You. Est-ce que tu peux nous en parler?
C'est une chanson que j'ai composée, I Hate You. Et je sais pas, on devait être énervé à ce moment-là. Et ça s'est fait assez naturellement, encore une fois. Voilà, il n'y avait rien de prémédité encore. On n'avait pas une personne à qui on pensait en particulier. Mais voilà, j'aime bien celle-ci.
Eh bien, c'est parti. On vous écoute.